You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
En Australie, le gouvernement fédéral a annoncé que son accord pour Hobart City en Tasmanie d'un montant de 1,4 milliard de dollars visait à faire de l'aéroport de la ville une passerelle internationale. En France, le président de la République était au salon de l'agriculture hier et l'acte 15 des Gilets jaunes s'est poursuivi à travers le pays. En Australie, le gouvernement fédéral a annoncé que son accord pour Hobart City d'un montant de 1,4 milliard de dollars visait à faire de l'aéroport de la ville une passerelle internationale. L'accord de financement d'une durée de 10 ans conclu entre le gouvernement fédéral, les États et les gouvernements locaux prévoit de supprimer les embouteillages et de stimuler les investissements scientifiques. Le Premier ministre Scott Morrison a déclaré que cet accord était avantageux pour tous.
It deals with everything from affordable housing through to busting congestion in our cities. It's great to see the turnaround, not only in the economy, but the population of Tasmania. And that requires us to invest. And that's exactly what we're doing. So it is a landmark, Dave, for Tasmania, for Hobart, and for Australia.
Le Premier ministre australien Scott Morrison fait appel à la population à éviter de tirer des conclusions sur les raisons sur lesquelles la Chine a interdit le charbon australien dans les principaux ports chinois. Le gouvernement chinois a déclaré que son annonce n'était pas à des fins politiques et les douanes inspectent et testent les importations de charbon en termes de sécurité et de qualité. Le ministre australien du commerce, Simon Birmingham, a déclaré que les informations faisaient état d'une interdiction des exportations de charbon étaient donc fausses. Il a déclaré sur Sky News que les suggestions de retard étaient dues aux conspirations politiques pour créer des tensions diplomatiques.
There remain some issues around the timeliness of processing through ports, and that we're eager to understand any reasons for those delays. So questions such as the quality and standards of coal are reasonable questions, and of course we work with our companies. They are opportunities for Australia because the quality of the product that we export, the efficiency of that product is amongst the best in the world.
L'opposition fédérale a annoncé son intention de créer une flotte de navires stratégiques comprenant une douzaine de navires, y compris des pétroliers, des transporteurs de gaz. Les navires battant le pavillon australien et leur équipage appartiendront à des intérêts privés et vont opérer sur une base commerciale mais pourraient être réquisitionnés par le gouvernement en cas de besoin. Le chef de l'opposition, Bill Shorten, a déclaré qu'il était temps de renouer avec le passé maritime du pays.
We are a seafaring nation. We have the people, we have the skills, we have the know-how, the get up and go to rebuild an Australian merchant fleet, a national strategic reserve. And if we are elected, I promise you that the next Labor government will make Australia a seafaring nation again with many more Australian ships.
Le gouvernement de Lesity interdira les aumôniers des écoles publiques à partir de la fin de l'année. La ministre de l'Éducation, Yvette Berry de Lesity, a déclaré que la loi sur l'éducation du territoire prévoyait que les écoles publiques étaient laïques. Elle a ajouté que tous les aumôniers actuellement employés pourraient rester, mais n'auraient aucune autorité pour enseigner la religion. John Perkins, porte-parole du parti laïque, a déclaré qu'il espérait que cette décision serait prise en compte par les gouvernements des autres États et territoires du pays.
Children in particular shouldn't be influenced by religion. They should be able to make up their own mind about religions. They should be taught about religions, but not coerced into adopting any particular religion, and decide what they themselves want to believe instead of being influenced in such a way by chaplains.
Des conditions de mer dangereuses dans le Queensland et le nord de la Nouvelle-Galles du Sud, malgré le passage du cyclone Oma à une dépression tropicale, alors que le cyclone s'éloigne de la côte, des marées hautes, des vents violents et de grandes houles entraînant l'érosion des plages sont prévues. Surf Life Saving Queensland a mis en garde les gens face à l'affaiblissement de la tempête, demandant aux nageurs de respecter les fermetures des plages. La crise au Venezuela, Nicolas Maduro a rompu les relations diplomatiques avec la Colombie. L'opposition, elle, tentait de faire entrer au Venezuela un convoi de camions transportant de l'aide humanitaire en provenance de la Colombie. Reportage Benjamin Delisle pour Radio France Internationale.
À Caracas, les manifestants de l'opposition ont commencé à se rassembler dans différents points de la capitale à partir de 10h du matin. L'ambiance était très festive, ils se disaient gonflés à bloc par le succès du concert qui s'est tenu la veille en Colombie. Rapidement, une marche s'est lancée vers l'autoroute qui traverse Caracas en son centre, une autoroute rapidement débordée par la masse impressionnante de manifestants. Le but était de s'approcher de la base militaire de la Carlota qui l'allonge pour exhorter l'armée de laisser passer l'aide humanitaire à la frontière. Malgré la joie de voir autant de monde, il y avait aussi beaucoup d'inquiétudes vis-à-vis de la situation à la frontière. Beaucoup de personnes ne lâchaient pas leur téléphone, les réseaux sociaux. Certains utilisaient même la radio de leur moto pour suivre la situation en temps réel. L'annonce du passage d'un camion d'aide par le Brésil a immédiatement entraîné une immense liesse populaire. Côté chaviste, près du palais présidentiel, l'ambiance était moins festive et la foule moins nombreuse. Beaucoup de fonctionnaires venus de plusieurs villes aux alentours de Caracas. Selon eux, ce qui se passe à la frontière n'est ni plus ni moins que le début d'une intervention militaire et ils se disent prêts à mourir pour Nicolas Maduro et pour la souveraineté du Venezuela.
Plus de 47 000 gilets jaunes ont manifesté hier en France pour l'acte 15. Ils étaient 5 800 à Paris, selon les chiffres du ministère de l'Intérieur. Le président de la République était au Salon de l'Agriculture hier. Emmanuel Macron a commencé la visite par un discours devant une assemblée de 500 personnes, pour la plupart des jeunes agriculteurs européens. Reportage Marine de la Moissonnière pour RFI.
Accueil chaleureux pour Emmanuel Macron, mais soudain un gilet jaune intervient.
Monsieur le Président, des gilets jaunes vous interpellent.
Bonjour, bah oui, mais il y a plein de gens qui m'interpellent. Je vais essayer de dire bonjour à tout le monde, je tiens mes engagements.
Et comme promis, le Président passe de longues heures dans les stands à tenter de rassurer les agriculteurs.
La réponse à cette crise qu'on vit au fond depuis assez longtemps, elle n'est pas simplement en mettant de l'argent public ou en traitant le symptôme, il faut s'attaquer à la cause profonde. Et donc c'est réussir à faire monter les prix et ce que ces prix redescendent dans la cour de la ferme chez l'agriculteur.
Chacun plaide sa cause et cela ne s'arrête pas aux sujets agricoles. On parle des 80 km heure ou bien ici de la fiscalité.
Les impôts, toujours plus quoi. On paye pour tout et tout le monde. Il y en a qui ont des aides de partout et qui gagnent plus quand ils sont au chômage, etc.
Alors, faut pas généraliser parce que la très très grande majorité des gens qui sont au chômage, c'est subi. Bah, il faut les aider, c'est la solidarité. Deuxièmement, les former. Et trois, les inciter à prendre un boulot. C'est ce qu'on fait.
Emmanuel Macron en profite pour défendre son action et son projet européen. Il demande aussi du temps. Je n'ai pas changé le pays en 20 mois, mais je ne lâcherai pas, promet-il.
Le Premier ministre français Édouard Philippe est en visite officielle au Mali pour renforcer surtout le soutien économique. Écoutez un extrait de son discours d'hier.
Aider le développement du Mali, c'est faire en sorte que cet État stabilisé, politiquement stable, puisse envisager son futur avec confiance. Ça a évidemment beaucoup attrait à la sécurité dans la région. Cela peut aussi avoir attrait aux questions migratoires. Et on voit bien que nous avons tout à gagner, et quand je dis nous, c'est la France, mais c'est en général l'Union européenne, à avoir des partenaires stables, fiables, qui se développent en Afrique en général et évidemment dans cette région en particulier. Nous avons en vérité partie liée, nous avons des intérêts communs. Et lorsqu'on a des intérêts communs, il faut pouvoir s'engager et investir pour faire en sorte que nos intérêts communs prévalent.
Les victimes d'abus au sein des églises catholiques ont demandé une enquête sur la destruction de documents concernant des prêtres accusés d'avoir abusé sexuellement des enfants. Lors du sommet international au Vatican sur la crise des abus, le cardinal allemand Reinhard Marx a admis que les dossiers avaient été manipulés et détruits pour protéger des prêtres pédophiles. Peter Easley du groupe Ending Clergy Abuse déclare qu'il veut que les responsables soient identifiés et traduits en justice.
Cardinal Marx knows who it is, because he just told us he knows who it is. I would have stood up
and I would have said, who did it? When did they do it? And are they in the room?
Le président américain Donald Trump a annoncé la nomination de la diplomate Kelly Knightcraft comme nouvelle ambassadrice américaine aux Nations Unies. Son portrait avec Béatrice Léveillé pour RFI.
Kelly Knightcraft est actuellement ambassadrice au Canada où elle a été la première femme à représenter les États-Unis. Cette femme d'affaires du Kentucky qui avait financé la campagne républicaine avait été nommée en 2007 par George W. Bush, délégué aux Nations Unies. 10 ans plus tard, Donald Trump l'avait choisie pour représenter son pays au Canada. Pour le chef de la diplomatie américaine Mike Pompeo, elle a défendu avec brio la sécurité nationale et les intérêts économiques américains au Canada. Et elle est extrêmement qualifiée pour faire de même aux Nations Unies. Elle s'est également illustrée en faisant des déclarations climato-sceptiques dans un pays très sensible aux questions d'environnement. Le poste d'ambassadeur à l'ONU est vacant depuis le départ le 31 décembre de Nikki Haley, étoile montante des Républicains, qui a démissionné au bout de 2 ans. La désignation de Kelly Knightcraft fait suite au désistement d'une ancienne porte-parole du département d'État américain qui manquait, selon ses opposants, d'expérience pour négocier des compromis à l'ONU. Sa nomination doit encore être approuvée par le Sénat.
Au Sénégal, près de 6,7 millions d'électeurs sont appelés aux urnes ce dimanche. Beaucoup espèrent un changement. Il y a 5 candidats en lice. Reportage de Dakar de William Lesseux pour RFI.
Fin d'après-midi à Pikine. Assises sur un tapis de natte jaune, des femmes font de la tontine. La tontine, c'est un système d'entraide mutuelle pour celles qui sont en situation de grande pauvreté. Soda Camara anime le rendez-vous du quartier.
Ah, parce qu'on est dans un pays sous-développé. Il faut qu'on s'entraide pour aider nos parents, nos maris et nos enfants à subvenir à leurs besoins. La première difficulté, c'est parfois qu'il y a des femmes qui se lèvent sans avoir quelque chose à manger.
Qu'est-ce que vous avez envie de dire au futur président ?
De subvenir aux besoins des jeunes, d'aider les parents, de multiplier les postes de travail et de diminuer le prix des denrées de première nécessité.
L'autoroute, l'arène de lutte, en périphérie, de grands travaux ont été menés dans le cadre du plan Sénégal émergent, le tout à l'extérieur de la ville. Pikine reste délaissée par l'État, estime Ibrahim Allo de la société civile.
Compte tenu de sa représentativité du point de vue démographique, on aurait dû avoir beaucoup plus d'intérêt en termes d'infrastructures, en termes de représentativité au niveau donc des instances de prise de décision. Et c'est pas réellement le cas.
La ville est la plus peuplée de la région devant la capitale. Pikine constitue un bassin d'électeurs crucial pour tous les candidats.
Au Nigeria, 84 millions d'électeurs ont voté hier pour élire leur président, mais aussi les membres du Sénat et de la Chambre des représentants. Une élection initialement prévue samedi dernier, le 16 février, mais repoussée pour des raisons logistiques. Daniel Oluwasun de la commission électorale déclare que le vote a été transparent.
So far so good, the counting has just started. They have 7 polling units here and the first one is being counted right now and so far it's transparent. We have seen some voided votes and the margin is going between the 2 major parties that are contesting.
Toujours en Afrique, le cinéma, le FESPACO avec la cérémonie d'ouverture au stade municipal de Ouagadougou hier pour le 50e du plus grand rendez-vous du cinéma africain. 160 films du continent sont programmés. Coup d'œil météo pour ce dimanche en Australie. Perth maximal de 29 degrés, Adélaïde 37, Melbourne 31, Hobart 27, Canberra 25, Sydney 26, Brisbane 30, Cairns 31, Darwin 34 et à Alice Springs maximal de 38 degrés. Un rappel des grands titres de ce dimanche. En Australie, le gouvernement fédéral a annoncé que son accord pour Hobart City en Tasmanie, d'un montant de 1,4 milliard de dollars, visait à faire de l'aéroport de la ville une passerelle internationale. En France, le président de la République était au Salon de l'agriculture hier. Fin du journal et merci de rester avec nous.
En français? Continuons la conversation sur notre page Facebook. Rejoignez notre page Facebook et partagez vos pensées. facebook.com/sbsfrench.
us what you think. Rate this podcast on iTunes. It helps other people to find us.